Bonjour à tous. Vous avez la forme?
Oui.
Ça se passe bien, votre petit week-end, tranquille?
Oui.
Ouais. Qu'une nuit pourrie pour l'instant? Bientôt la deuxième? Qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin? Pourquoi vous vous levez le matin? Qu'est-ce qui vous motive? Est-ce que c'est d'être beau et fort? D'aller à la salle de sport, d'avoir des pecs et des abdos saillants? C'est la dernière mode, là. Est-ce que c'est de te faire plaisir? Voilà, moi quand j'avais 18 ans, j'étais trop fier. J'ai mis 400 euros et j'ai acheté des skis d'occasion qui tournaient en Coupe du Monde de ski alpin. C'est des skis ultra agressifs. Et j'étais fier avec mes skis et j'allais au ski et c'était mon rêve. Je vivais pour ça. Je me levais à 6h du matin, enfin 5h du matin, on partait à 6h de Lyon, on allait skier. Et c'était mon truc. Peut-être que toi, ce qui te fait te lever le matin, c'est d'être le meilleur dans ton équipe de sport, d'être le MVP, le most valuable player, ouais, le MVP de ton équipe de basket, ou de mettre la misère à ton pote sur votre jeu vidéo préféré. Ou peut-être que ce que tu kiffes le plus, c'est d'avoir plein de cœurs sur Snapchat. Et que ça, c'est vachement important. Ou peut-être même qu'il n'y a rien, et que justement, la vie est un peu hésitante parce qu'on ne sait pas où on va, on hésite. Et ce que nous allons voir, on va parler de la vocation, on va parler de plein de choses, mais au fond, le fond de la discussion qu'on va voir maintenant pendant 45 minutes, c'est que Dieu veut nous inviter à une aspiration qui est plus élevée. Dieu veut nous donner un rêve, un kiff, une appétence qui est plus grande que toutes ces choses terrestres, qui va nous motiver du moment où on pose le pied le matin, quand on se réveille, quand on est encore vaseux, jusqu'au moment où on s'endort. Une force de motivation, une force de vocation. Et c'est ce qu'on va essayer de voir maintenant. Jésus cherche des personnes qui sont disponibles. Jésus cherche des personnes qui sont disponibles, qui rêvent premièrement de son royaume et de le suivre. Qui aspirent, qui cherchent premièrement le règne de Dieu et qui veulent le suivre.
Donc, bonjour, moi c'est Doriane.
Et moi c'est Jérémy.
Nous avons trois enfants, les plus beaux du monde bien sûr. Moi je travaille comme dermatologue, donc si vous avez des boutons, je suis à votre service. Pas tout.
Et moi je travaille comme pasteur à côté de Lyon, ça fait 10 ans qu'on est dans le ministère et avant j'étais ingénieur en télécommunication, donc je faisais fonctionner vos téléphones portables chez Orange. Vous avez remarqué que nous vivons dans un monde qui n'est pas exceptionnel, qui est compliqué. Au lycée, au collège, le monde, les actualités, c'est compliqué. Mais Dieu a un grand projet de restauration du monde, de nous réparer, de réparer des hommes et des femmes, et ça va culminer dans un banquet céleste où nous passerons l'éternité dans sa présence et nous allons nous réjouir. C'est d'ailleurs vachement sympa parce que moi, parfois, j'imaginais le ciel comme des petits anges qui volaient dans des nuages, mais en fait, Dieu présente le ciel comme un banquet céleste où nous nous réjouirons de sa présence. C'est à ça qu'on aspire. Ça vaut le coup. Et pour participer à ce banquet céleste, à nous réjouir de la présence de Dieu, où nous serons ensemble, sans défaut, dans une fête pleine et entière pour toujours, Dieu s'est déplacé, Dieu s'est incarné, et Dieu est venu nous sauver. Jésus est venu sur terre en mission, et il est devenu ton serviteur, si tu l'acceptes. Pour être restauré, pour être au ciel, pour devenir des serviteurs et des disciples, Jésus est venu nous laver les pieds, Jésus t'a lavé les pieds, métaphoriquement, c'est-à-dire qu'il t'a purifié de tes péchés. Il est mort pour toi, pour te donner une vie nouvelle. Nous allons beaucoup parler de vocation pendant 45 minutes, de devenir des serviteurs, de nous consacrer au service de Dieu, mais il faut d'abord se souvenir que Jésus s'est consacré à ton service. Il t'a lavé les pieds. Et c'est ça qui nous donne la motivation pour être à son service toute notre vie. Il ne faut pas se tromper, il ne faut pas inverser. Maintenant qu'on a dit ça, on peut rentrer dans le vif du sujet.
Donc on a parlé de quel était ton rêve, celui qui te donne envie de te lever le matin. Et le rêve de Dieu, c'est ce repas où on est tous ensemble et c'est le rêve auquel on peut participer. Dieu nous invite à restaurer le monde et à apporter la bonne nouvelle de la libération à tous les asservis et à tous les opprimés. Et nous souhaitons donc Participer à ce rêve, à cette vision magnifique d'un jour être tous ensemble avec Dieu, et donc nous souhaitons que plusieurs personnes nous rejoignent et qu'il y ait de plus en plus de monde qui nous rejoigne à ce grand repas, à ces grandes fêtes avec Dieu. Et c'est ça qui est le rêve auquel on vous propose d'aspirer. Et on pourrait commencer par réfléchir aux besoins. Alors, aux besoins, déjà en France, si on voudrait qu'il y ait une église de qualité dans chaque région et que les gens fassent un trajet à peu près correct pour aller à l'église, pas une heure de route, à votre avis, il faudrait qu'il y ait combien de pasteurs formés sur les 10 prochaines années ?
Rien que... Alors, désolé, on parle de la France, les Suisses, sentez-vous intégrés, mais là, c'est des stats pour la France.
Ouais. 200 qui votent pour 200 ?
Qui votent pour 200 pasteurs formés d'ici 7 ans en France, pour juste pour que les églises puissent fonctionner à peu près correctement en France ? 200 ? Non, personne pour 200 ?
500 ?
750 ? 750 ? Ouais. 1000 ? Voilà.
Oui, alors il y a besoin de 1000 pasteurs formés sur les 10 ans, sachant qu'en ce moment, il y a à peu près 200 pasteurs en 10 ans. Donc il faudrait multiplier par 4 ou 5 le nombre de personnes qui se forment pour être pasteurs pour pouvoir répondre aux besoins des églises en France. Si on parle du monde...
La carte d'abord.
Ah oui, la carte de France, c'est le nombre d'églises. C'est à peu près les églises qu'il y a. Alors nous, pour vous donner l'exemple, on est sur le coin rouge au milieu. Vas-y.
Donc, par exemple, nous, on sert à Trévoux, donc dans la banlieue de Lyon. Donc, nous, on est ici. Et donc, si vous regardez, ben, on peut faire une heure de route pour aller jusqu'à Bourg-en-Bresse. Et puis là, dans l'ouest, vous avez un peu à Rouen, mais là, vous avez une heure et demie de route. Donc, on a l'impression parfois qu'il y a beaucoup d'églises, mais ça ne veut pas dire que ce sont des églises de qualité. Et ça ne veut pas dire qu'elles sont bien réparties. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de populations qui n'ont pas forcément accès au message de l'évangile, déjà en France. Voilà.
Donc Jésus cherche des personnes disponibles qui rêvent premièrement de voir son royaume en France. Et pour le monde, Jésus dit que la fin viendra quand la bonne nouvelle sera proclamée au monde entier. On vous propose de voir une vidéo pour voir le travail qui reste à accomplir.
Comprendre la tâche missionnaire restante. Qui a entendu la bonne nouvelle de Jésus et qui attend encore de l'entendre pour la première fois? Près de 10% de la population mondiale sont des disciples engagés de Jésus, qui croient que Jésus est celui qu'il a dit être et qui lui ont donné leur vie. Ils croient que chacun peut connaître Dieu par Jésus et en parle autour d'eux. De nombreuses autres personnes se disent également chrétiennes. Ils nécessitent d'approfondir leur foi en Jésus et d'avoir une relation personnelle avec Dieu à travers lui. Environ 33% de la population mondiale s'identifie comme chrétienne. Mais où vivent les chrétiens du monde? La bonne nouvelle de Jésus se répand dans le monde, mais de manière inégale. Tout d'abord, divisons le monde en régions selon leur population. Ensuite, montrons où vivent les chrétiens. Dans chaque région, montrons les disciples de Jésus et les autres qui se disent chrétiens. L'Amérique latine a le pourcentage total de chrétiens le plus élevé, suivi par l'Amérique du Nord et le Pacifique. L'Europe compte de nombreux chrétiens nominaux, alors que l'Afrique non musulmane compte de nombreux disciples engagés de Jésus. Aujourd'hui, la Chine compte également de nombreux disciples engagés de Jésus. D'autres pays asiatiques comptent en moyenne un tiers de chrétiens, notamment la Corée et les Philippines. Certains pays à majorité musulmane abritent des groupes chrétiens depuis des siècles. De toutes les grandes régions du monde, l'Inde a le plus faible pourcentage de chrétiens. Comme on le voit, les chrétiens ne sont pas uniformément répartis dans le monde. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens vivent dans les Amériques, en Europe ou en Afrique subsaharienne. Dans chaque région, les disciples engagés de Jésus peuvent renouveler la foi des autres chrétiens et peuvent parler de Jésus aux non-croyants de leur propre groupe ethnique. Appelons ces personnes des non-croyants culturellement proches et représentons-les en vert. Ces non-croyants sont leurs proches, voisins et collègues, qui parlent, mangent et s'habillent comme eux. En Chine, des centaines de millions de non-croyants sont à présent culturellement proches des disciples de Jésus. Pour 40% des non-croyants, il existe de nombreux chrétiens de leur propre groupe ethnique qui peuvent entrer en contact avec eux sans avoir à apprendre une nouvelle langue ou culture. Ils font partie des peuples qui ont accès à l'évangile car la bonne nouvelle s'y répand. Les croyants en Chine ont une tâche difficile de partager l'évangile avec tant de proches et de voisins non-croyants, mais heureusement, ils peuvent le faire dans leur propre langue. Parmi les peuples qui ont accès à l'Évangile, les disciples engagés de Jésus peuvent encourager les autres chrétiens de leur famille et communauté à s'engager pleinement envers Jésus. Ils peuvent aussi parler de Jésus aux nombreux non-croyants proches de leur propre groupe ethnique sans avoir à apprendre une nouvelle langue et une nouvelle culture. De nombreuses personnes dans le monde vivent dans d'autres groupes ethniques qui ne comptent presque aucun disciple de Jésus appartenant à leur communauté et connaissant leur langue. Ils n'ont aucune chance d'entendre parler de la nouvelle vie en Jésus par quelqu'un de leur propre groupe ethnique. Pour 60% des non-croyants dans le monde, il existe peu de disciples de Jésus dans leur propre groupe ethnique. Ils sont culturellement éloignés des croyants. Montrons ces non-croyants culturellement éloignés en bleu. La plupart d'entre eux vivent en Inde, dans des pays à majorité musulmane en Afrique et en Asie ou dans d'autres régions d'Asie. Ils ont besoin que des croyants d'autres groupes ethniques viennent apprendre leur langue et leur culture et leur parlent de Jésus. Ils vivent parmi des peuples sans accès à l'Évangile, des groupes ethnolinguistiques distincts, composés de moins de 2% de disciples de Jésus et moins de 5% d'autres chrétiens. Quel groupe de peuples sans accès à l'Évangile sont les peuples frontières ? Certains non-croyants culturellement éloignés ont si peu de croyants dans leur entourage qu'ils n'ont aucune chance d'entendre parler de Jésus par des personnes qu'ils connaissent. Utilisons un bleu plus foncé pour montrer ceux qui ont moins de 0,1% de chrétiens dans leur groupe ethnique. Environ un quart de la population mondiale vit dans des groupes des peuples frontières, et plus de 95% d'entre eux se trouvent en Inde et dans des pays à majorité musulmane. On ne recense aucun mouvement vers Christ, aucune percée de la foi autochtone parmi les peuples frontières. Il est temps d'associer ce que nous savons à ce que nous faisons. Nous savons donc que les peuples qui ont accès à l'Évangile comptent de nombreux disciples de Jésus qui peuvent leur parler de Jésus. Mais vous savez quoi? Nous envoyons 30 fois plus d'ouvriers chrétiens transculturels vers eux que vers les peuples sans accès à l'Évangile, soit un rapport de 30 pour 1. Ces ouvriers ne partent pas seulement de l'Occident, ils viennent de partout et vont partout, mais la plupart d'entre eux sont envoyés pour travailler avec d'autres églises dans leur programme de formation ou d'évangélisation. Actuellement, pour 30 ouvriers chrétiens transculturels qui partent vers les peuples qui ont accès à l'Évangile dans le monde, environ un seul part vers les peuples sans accès à l'Évangile, y compris les peuples frontières. Par conséquent, les besoins des personnes appartenant aux peuples sans accès à l'Évangile, en particulier ceux des peuples frontières, sont largement négligés. La tâche missionnaire restante se concentre principalement en Inde, dans les pays à majorité musulmane et en Asie. Nous avons besoin de bien plus de témoins auprès des non-croyants culturellement éloignés parmi les peuples sans accès à l'Évangile et les peuples frontières. Les peuples frontières attendent toujours d'entendre parler de Jésus pour la première fois. Voici le défi de mobilisation missionnaire de notre génération.
Voilà, moi ça m'a fait un choc de savoir qu'il y avait 2 milliards de personnes qui ne pouvaient pas entendre parler de Jésus encore maintenant. 2 milliards.
Donc il y a beaucoup de choses qui vendent du rêve dans la vie, beaucoup de choses qui veulent attraper votre cerveau pour vous vendre des choses, mais il y a une seule chose qui ne pourra jamais vous lasser, c'est de déjà vous-même de participer à cette restauration que Dieu veut vous proposer pour vous personnellement, et d'insérer votre vie dans ce grand projet qui dure depuis longtemps et qui va se terminer lors du retour de Christ, de participer à ce que des gens entendent parler du Seigneur et qu'ils participent à ce banquet céleste. Ce rêve ne te décevra jamais.
Peut-être que là, tu dis, bon, je suis un peu jeune, moi, c'est un peu grand tout ça. Qu'est-ce que je fais? Alors, quand j'avais 17 ans, j'étais un peu entre deux, et puis j'ai décidé de me consacrer à Jésus. Et puis, la première chose que j'ai fait, c'était de commencer par lire la Bible tous les jours. C'est pas énorme, mais c'était mon premier pas pour me préoccuper premièrement de Dieu. Prendre 5 minutes dans ma journée pour Dieu. Et puis, progressivement, j'ai fait des petits pas, j'ai demandé de me faire baptiser. Puis après, j'ai commencé à servir dans mon église. Donc, j'ai commencé par être fidèle dans des petites choses. Et c'est là un bon début, de commencer par s'accrocher à Jésus, lire la Bible, prier, et être fidèle dans des petits services qui sont autour de vous.
Alors on va faire un très court panorama de qu'est-ce que la Bible dit de la vocation, de comment trouver sa place dans ce grand projet de Dieu. Il y a deux idées principales, très simples. La première idée, c'est que nous sommes tous appelés. Si tu es un disciple, tu es appelé. La deuxième idée, c'est que c'est la manière, la modalité de ton appel qui est différente et qui est particulière à chacun d'entre nous. Nous sommes tous appelés, mais la modalité de notre appel est spécifique. Alors, regardez, pour le premier point, nous sommes tous appelés. Vous avez peut-être déjà lu les évangiles avec Jésus qui dit tout à la fin, juste avant l'ascension, « Faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » En tant que croyants, en tant que chrétiens, nous héritons, cette mission a été donnée aux apôtres, nous héritons de cette mission, et la mission de l'Église, c'est d'être des disciples et de faire des disciples, les enseigner jusqu'au bout du monde. L'appel n'est pas une question à se poser, mais une réponse que Dieu attend de toi. Donc ce n'est pas est-ce que je suis appelé ou je ne suis pas appelé. La réponse c'est je suis appelé, est-ce que je dis oui à l'invitation de Dieu. L'appel n'est pas une question à se poser, mais une réponse que Dieu attend de toi. Alors après, de quelle manière c'est ça qui va changer. La majeure partie des chrétiens sont appelés à être des disciples fidèles de Jésus-Christ là où ils sont, dans leur travail, dans leur famille, dans leur quartier. Il y a une grande valeur spirituelle au travail, c'est la redécouverte du protestantisme au XVIe siècle. Il n'y a pas les gens consacrés et les gens qui ne sont pas consacrés, il n'y a pas le clergé et le non-clergé. Nous sommes tous ensemble pour Jésus-Christ. Il y a une grande valeur au travail d'être artisan dans le domaine médical, dans le domaine social, ingénieur, faire la cuisine, mais aussi faire la lessive. Les femmes enceintes qui font des siestes parce qu'elles sont épuisées, il y a une grande valeur à tout ça. Et voilà ce que dit Colossiens. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur. Vos études, le brevet. Alors l'équivalent du brevet en Suisse, c'est quoi ? Le bac ? C'est quoi l'équivalent du bac en Suisse ? La matu. Tout ce que vous faites, dont la matu, dont le bac, dont le lycée, dont vos études, dont respecter tes parents, dont la lessive pour aider tes parents, faites-le comme pour Jésus et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. Le Seigneur que vous servez, c'est Christ. Nous servons Christ. Luther dit que le travail des moines n'est pas au-dessus du travail du laboureur ni de la participation à l'éducation des enfants. Quand on s'investit avec dynamisme et sérieux, on répond à l'appel que Dieu lance aux êtres humains. Donc la première modalité pour suivre Jésus, c'est de lui être fidèle. Et donc la question que vous aurez à répondre, c'est comment est-ce que vous allez consacrer votre vie, votre travail, vos études, votre temps, votre argent à Jésus-Christ. Et là, il y a beaucoup de choses à déconstruire. Pour les Français, quand vous allez au CDI pour rencontrer la conseillère d'orientation, donc j'imagine que les Belges et les Suisses, vous avez le truc équivalent dans vos lycées, dans vos collèges, j'imagine qu'on te dit « il faut s'épanouir ». Il faut être toi-même. Il faut faire ce qui te plaît. Mais nous, on cherche ce qui plaît à Jésus. Si tu regardes LinkedIn te dit il faut avoir une belle trajectoire. Il faut être cool, il faut s'épanouir dans son travail, etc., etc. Mais non, en fait, il faut être fidèle à Jésus-Christ. Que te disent tes parents ? Il faut la sécurité. Non, il faut vivre par la foi en Jésus-Christ. Amen. Que te dit l'éducation nationale avec Parcoursup ? Choisis ton futur. C'est ça, hein ? Les lycéens que je vois qui mettent leurs vœux, ils sont stressés. Quand il faut choisir les options en seconde, ils sont stressés. Eh bien non, notre futur est dans les mains de Dieu. On peut lui faire confiance. Il va te garder. Et toutes ces choses sont des choses qui sont ultra anxiogènes. Ce sont des idoles anxiogènes. Notre choix, c'est de suivre Jésus. Lançons-nous, lancez-vous, et Jésus va te garder. Cherchez premièrement le règne de Dieu, et toutes ces choses vous seront données en plus. Donc, première chose, disciple de Jésus dans le monde. Ensuite, il y a la vocation de l'ouvrier. L'ouvrier, c'est celui qui va servir Jésus à temps plein. De manière schématique, j'ai mis pasteur, serviteur de l'Église, missionnaire, serviteur du monde, mais c'est schématique, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Bien sûr, il y a les aumôniers, il y a les moniteurs de groupes de jeunes, il y a plein de possibilités, mais pour la simplicité, pour la pédagogie de l'atelier, on reste sur des choses simples. Donc il y a l'ouvrier qui sert à temps plein. Et Jésus dit, la moisson est grande, on a vu le film, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Et Jésus précise plus tard que l'ouvrier mérite son salaire, celui qui proclame l'évangile peut vivre de l'évangile. Alors pour vous donner quelques exemples, qu'est-ce qu'un pasteur ? Je vais vous raconter une petite histoire. Une fois, donc, je suis le président de mon union d'église. Donc, notre union d'église s'appelle Caris. On est 10 églises, on est tout petit. Du coup, une fois, j'étais dans une église et puis ils me racontaient un peu les difficultés qu'ils pouvaient avoir au niveau de leur service, etc., de la formation des responsables dans leur église. Et je dis, mais pourquoi vous ne prendriez pas un pasteur qui vous aiderait dans cette démarche ? Et donc, un des anciens sur place, il me dit, ah non, Jérémy, on ne veut surtout pas un pasteur qui ferait tout. Nous, on veut former les gens pour que les gens utilisent leurs dons et qu'ils soient au service selon leurs dons dans l'église. Et donc la discussion, elle était un peu plus longue que ce que je viens de vous dire. C'est très rigolo parce qu'en un quart d'heure, le gars, il m'a dressé ma fiche de poste. C'est quoi le travail d'un pasteur ? C'est de former, d'encourager, d'édifier les gens pour que chacun trouve sa place dans l'église et se mette au service des autres avec le don qu'il a reçu. C'est ça le travail de pasteur, c'est pas de tout prendre pour lui, mais c'est d'investir dans les autres pour que chacun trouve sa place. Et du coup, eux, ils n'y arrivaient pas parce qu'ils n'avaient pas l'énergie pour faire ça. Donc en fait, vous achetez de l'énergie et de la formation pour pouvoir investir dans les gens. Donc pour vous donner quelques exemples, il y a une dame qui vient dans l'église. Elle a passé beaucoup de temps dans des églises un peu protestantes. Elle se disait « Oui, je suis chrétien ». On parle un peu et puis elle me dit « En fait, tu vois, Jérémy, la grâce, j'en avais entendu parler, mais maintenant j'ai compris ». En fait, elle n'était pas convertie. Donc pour elle, le christianisme, c'était une morale. Tu pries, Dieu te bénit. Mais elle a compris qui est Jésus. Donc par l'enseignement. Donc maintenant, elle fait un binôme avec une sœur de l'église. Elle apprend à devenir disciple. Et avec Dorian, elle est en train de se former pour enseigner les enfants à l'église. Ça, c'est le travail de pasteur. D'accueillir, de suivre, de s'assurer que c'est fait, de mettre les bonnes personnes avec les bonnes personnes. Un ami qui a passé beaucoup de temps dans l'église catholique, qui avait divorcé, qui portait beaucoup la culpabilité. Il arrive à l'église, pareil, il comprend la grâce. Et là, il boit la grâce. Il kiffe le pardon de Jésus. Et là, on est en train de le former, il va devenir aumônier dans les hôpitaux. Trois familles qui sont à... Vous avez vu le grand vide qu'il y avait autour de notre église à Trévoux, à l'est et à l'ouest. Trois familles qui sont à 50 minutes de notre église qui disent « Jérémy, on a envie d'ouvrir une église dans notre village, comment on fait ?» Ben, le travail du pasteur, c'est aussi de dire « Ben voilà, on prend le temps, on forme, on accompagne, on prépare un cursus, on suit ce que le CNEF dit, vous savez, les évangéliques, etc. On forme les gens, on est en train de créer une nouvelle église à Ampoupu. » Donc, un dernier exemple. En ce moment, dans l'église, on a une nouvelle génération entre 20 et 35 ans. Comment est-ce qu'on va leur transmettre la responsabilité de l'église ? Les accompagner, les former, les édifier, les coacher. Ça, c'est aussi le travail des anciens et du pasteur. Pour le missionnaire... Une longue histoire courte, en gros, c'est de faire la même chose, mais avec la spécificité du travail interculturel. D'accord ? Donc d'édifier, d'accompagner et d'implanter l'Église là où l'Église n'est pas là, dans une autre culture. C'est le pont culturel. Voilà en quelques mots, un panorama qui est un peu taillé, mais pour vous donner un petit peu un panorama des possibles.
Donc concernant le travail de missionnaire, sachez que toutes les compétences et tous les dons sont utiles. Il n'y a pas besoin d'avoir fait de la théologie ou d'être un super bon orateur. Par exemple, tu pourrais aller dans une mission en tant que comptable. Il y a beaucoup de missions qui galèrent avec la comptabilité. En tant que quelqu'un qui est chargé de communication, faire de la pub. Enfin, voilà. Les missionnaires, ils sont aussi parfois des constructeurs de bâtiments. Donc, si tu es doué dans la construction, tu peux aider à une construction, par exemple, ici, d'un hôpital au Tchad. Si tu es doué en langue, tu pourrais t'imaginer travailler dans la traduction de la Bible. Il y a encore 90% des langues du monde qui n'a pas encore la Bible en entier dans sa langue. 90%. C'est-à-dire que la Bible n'est traduite que pour 10% des langues. Donc il y a du travail. Tu pourrais aussi, si tu aimes le sport, faire du sport pour la mission. Il y a opération mobilisation, ils ont un bateau qui va dans différents pays, et puis à chaque port, ils proposent de faire du sport avec les gens sur place. Donc ça, c'est une idée de vocation. Et puis si t'es artiste, tu pourras aussi faire de la peinture. Voilà, il y a plein de travail différents selon tes dons dans la mission.
Une dernière précision là-dessus, il y a aussi le principe de ce qui est bivocationnel, c'est l'idée qu'un ouvrier peut aussi pourvoir à ses propres besoins pour servir. C'est assez commun de plus en plus. Par exemple, quelqu'un qui pourrait dire je vais travailler à 80%, je vais consacrer 20% de mon temps pour me former et mieux servir la jeunesse dans mon église. Dorian.
Donc moi, en ce moment, je travaille comme dermatologue habitant et je suis à 20% pour un ministère pour les enfants.
Voilà. Donc en une phrase, nous sommes tous appelés. La modalité de notre appel est différente. Alors on arrive sur des choses plus pratiques. Comment connaître son appel ?
Alors moi, quand j'étais à votre âge, je galérais vraiment à savoir qu'est-ce que Dieu veut que je fasse dans ma vie. Donc j'ai bien lire un gros livre de 400 pages pour vous. Alors, pour connaître son appel, il y a plusieurs domaines. On va dire, on va partager en plusieurs carrés. Voilà. Et la première chose, c'est qu'est-ce qu'on a dans le cœur ? Alors, la démarche intérieure, qu'est-ce qui vient au fond de nous, qui est-ce qu'on est pour suivre notre appel en fonction de qui on est. Donc on va parler en premier de la démarche intérieure. Et la première chose qu'il faut regarder en soi, c'est où est notre amour. Je ne pense pas que Dieu puisse t'appeler à faire quelque chose si tu n'as pas de l'amour pour ça. Et si tu reçois l'amour de Dieu pour quelque chose, ça peut être sous forme d'une colère aussi, quelque chose qui t'énerve, une injustice que tu vois. Ça peut être un fardeau, quelque chose qui t'empêche de dormir, ça peut être quelque chose qui te rend très triste. Mais en tout cas, quelque chose auquel tu es sensible, c'est sans doute là que Dieu t'appelle. Une fois, j'avais 20-25 ans, j'étais à Lyon et je connaissais presque personne. Et j'ai entendu un chant qui parlait de trafic des êtres humains. Donc c'est les filles qui sont achetées et qui sont mises dans les rues pour être prostituées. Et tout l'argent gagné va à d'autres personnes. Donc elles sont vraiment esclaves. Et j'ai dit à Dieu, ça me touche, j'ai reçu ça comme un gros fardeau, boum. Je ne pouvais plus rien faire d'autre que je pensais à ça, j'étais hyper bouleversée, j'ai dit à Dieu, qu'est-ce que je fais avec ça ? Et bien en fait, à ce moment-là, à Lyon, il y a eu d'autres personnes qui ont reçu en même temps le même fardeau. Et là, la circonstance, les personnes, je ne sais pas pour comment on a fait, mais on s'est rencontrés, et on a su qu'il y en avait d'autres qui avaient envie de parler de ça, il y en avait d'autres qui avaient envie de parler de ça, et du coup on a créé une association. Et par exemple, voilà, ça c'est Bérénice, c'est une fille qui était dans la rue avant et qui maintenant elle est devenue la présidente de l'association. Donc, tout ça pour vous dire que si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, c'est sans doute une marque de votre appel. Ensuite, la deuxième marque, c'est les dons. Évidemment, Dieu ne va pas t'appeler sur un truc que tu n'es pas capable de faire. Si tu n'es pas doué pour quelque chose, il ne va pas t'appeler là-dedans. Par contre, c'est sûr que tu as un don ou plusieurs dons. Et donc, regarde tes dons, essaye de réfléchir à quoi tu es doué et comment tu peux utiliser ça pour Dieu. Je voulais juste te dire quelque chose de très important, c'est que tu as un don. Tout le monde a un don. Et en plus, tu es responsable de ton don. Donc, c'est-à-dire, un jour, Dieu va te demander qu'est-ce que tu as fait du don que je t'ai donné, du ou des dons. Donc, c'est vraiment une responsabilité importante. Et puis, toujours dans la démarche intérieure, je vous invite à lire la Bible et à prier et à chercher la volonté de Dieu en lisant la Bible et en priant. Et la réflexion, toute cette démarche intérieure de réflexion, elle doit être nourrie par ça, par la lecture de la Bible et la prière. Ensuite, il y a donc voilà, la vocation intérieure, on vous a résumé ça avec un beau dessin. L'amour, quelque chose qui vous tient à cœur, vous ne pouvez pas travailler sans amour pour Dieu. Les dons, la Bible et la prière. Et si tu n'as rien qui te donne de l'amour, enfin si tu n'as aucun fardeau, tu pourrais commencer par aller au stand avec un mission, tous les stands de mission là-bas. Et puis, tu passes du temps avec chaque personne qui tient le stand et vois si Dieu te montre quelque chose qui te touche ton cœur. Peut-être que là, tu recevras de Dieu un amour pour quelque chose. Donc maintenant, j'aimerais parler de la vocation extérieure. La vocation extérieure, c'est ce qui va se passer autour de toi qui va confirmer ta vocation. Donc par exemple, les circonstances, Dieu peut faire en sorte d'ouvrir et de fermer les portes. Dieu va guider vers les bonnes personnes et ça, c'est hyper important. Jérémy vous en parlera après. Il y a la personne de confiance. Vous êtes souvent entouré, je vous le souhaite, d'être entouré de personnes avec qui vous pouvez partager votre fardeau, ce que vous ressentez comme appel, ce qui vous touche, vos dons, et vous dites « j'ai envie de servir Dieu, qu'est-ce que tu penses que je peux faire ?» Donc cette personne de confiance, elle est là pour discerner ton appel. Et pour finir, il y a la validation par l'Église, et si vous avez une Église qui peut vous valider dans ce que vous pensez être votre appel, c'est très important. Si c'est pas le cas, ben tant pis, mais en tout cas, on vous conseille pas de partir pasteur ou missionnaire tout seul. Vous avez besoin d'être entouré par un groupe de personnes de confiance.
Pasteur ou missionnaire, ou même vous lancer dans un ministère comme, imaginez, l'aide aux prostituées, c'est quelque chose où on n'y va pas seul. D'accord ? Donc l'Église peut être votre vis-à-vis, etc.
Pour finir, on vous invitera, et on en reparlera, à faire des expériences. Et quand vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, commencez par une petite expérience, commencez par un petit service. Et c'est des expériences qui sont réussies, ça vous confirme dans votre appel, dans votre mission, dans votre vocation. Donc, pour la synthèse, voilà, la vocation extérieure, c'est les circonstances, la personne de confiance qui valide, l'Église qui valide, et puis une expérience réussie qui vous encourage en ce sens. Et je vous invite aussi à être disponible. Vous voyez la fille comme elle attend les mouvements du chef d'orchestre ? Ça, c'est comment on est devant Dieu. En fait, on est là avec nos dons, nos personnes, et on peut dire à Dieu, ben voilà, moi je suis là, je suis disponible pour toi. Est-ce que tu peux lancer le mouvement de la musique, je te suivrai. Et c'est ça la disponibilité que Dieu attend de nous.
Et puis bien sûr, à un moment donné, quand vous sentez la chose qui se met en place, il y a un moment de se lancer. Donc dans le témoignage que vous avez entendu de Dorian, ben à un moment donné, il faut oser dire, on va aller dans la rue. Il faut monter l'association. Et donc là, on se lance, dans le processus. J'aimerais vous donner un petit mot de témoignage sur comment est-ce que ça a joué dans ma vie à titre personnel. Comment un petit peu, pour vous donner une idée, comment ça peut se mettre en place. Quand j'étais pré-ado, je faisais des camps, voilà, j'allais régulièrement dans des lieux où j'entendais parler de Jésus, etc., où j'ai fait une démarche de conversion. Et puis, pour différentes raisons, vers 15-16 ans, je me suis retrouvé avec Opération Mobilisation. C'est une association qui fait des grandes conférences en Allemagne, 3-4 000 jeunes de 40 pays, et ils proposent à des jeunes de faire 15 jours, une semaine ou 15 jours de mission à court terme en Europe. Et donc, comme ça, je me suis retrouvé à 15 ans en Suisse, à Bièvre, à 16 ans en Hollande, à parler de Jésus-Christ dans la rue. Et là, je me suis rendu compte que j'avais des faiblesses, mais que, par exemple, parler en public, ça ne me dérangeait pas. Donc là, c'était plutôt une force. À 17 ans, j'ai fait aide cuisine à la JAB, au Contamine, pour ceux qui connaissent. Moniteur à 18 ans. Et puis, voilà, j'ai 18 ans, je me retrouve dans mon école d'ingénieur, parce que la conseillère d'orientation m'a dit, ben voilà, t'es bon en maths, merci. Donc je vais à Lyon, à l'INSA, sur le campus de la Doua. Qu'est-ce qu'il y a sur le campus de la Doua ? Il y a Agapé, Association d'étudiants chrétiens, où il y a les GBU, par exemple. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allé à Agapé. À Agapé, on a pris soin de moi. Ben, vas-y, fais un groupe découverte, fais un groupe de disciples, étudie la Bible, etc. Et puis au bout d'un moment, on m'a dit, ben, est-ce que tu veux pas en accompagner d'autres ? Que tu veux pas faire une campagne d'évangélisation ? Est-ce qu'au bout d'un an ou deux, il faut un trésorier ? Jérémy, tu veux être trésorier ? Bah oui. Alors là, je me suis rendu compte au bout d'un an. Alors j'ai rendu les comptes juste, au centime près, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas mon truc. Est-ce que tu veux être secrétaire, Jérémy ? Ok, je veux bien être secrétaire, Jérémy. Je veux bien être secrétaire pendant 2 ans. Et puis je suis parti un an avec le bateau d'OM. Et, vous savez, et de petit à petit, vous vous rendez compte des forces, des faiblesses. Il y a des gens qui vous disent « Non, ça va demander pardon. » Parfois, on vous dit « Non, ça, c'était super. » Et puis vous apprenez à naviguer, vous écoutez, vous grandissez, vous évaluez. Et puis ce qui s'est passé, c'est à la fin, au bout de 4 ans d'Agapé, il y a eu un renouvellement dans le leadership. Donc tout le leadership est parti et on s'est retrouvé à 3-4. Et ben là, on a géré le groupe Agapé pendant 2 ans. Et il y a eu quelques jeunes croyants. Il y a une jeune femme qui est plus jeune maintenant, qui est aussi vieille que nous maintenant, qui s'est fait baptiser là récemment et qui a rencontré le Seigneur à travers ces années d'Agapé où il n'y avait plus personne. Et à 4, on a porté Agapé parce que j'y ai été formé. Et là, vous voyez, le go, ben, à un moment donné, il fallait gérer, on a géré. Et puis, dans ces entrefaites, j'ai rencontré un pasteur qui est devenu mon mentor. Je pensais quitter mon église parce que, ben voilà, il ne se passait pas grand-chose. Et là, donc, ce gars arrive, il est devenu le pasteur et il m'a coaché. Jérémy, occupe-toi de ça, essaye, ça marche pas, non, ça c'est nul, ça c'est bien. Ça, il faut que tu ailles demander pardon encore, etc., etc. Après, les animations de culte, puis les prédications. Et puis, il prenait aussi les coups pour moi. Et là, avec Dorian, on s'est dit, donc là, on était un peu dans la vocation extérieure. Et là, on était à l'étape de la décision avec Dorian, et on s'est dit, parce qu'on est un peu défenseurs tous les deux, et on s'est dit, on ne veut pas prendre nous-mêmes la décision de se lancer dans le ministère. Donc on a dit, on veut que ce soit notre église qui nous envoie. On ne l'a pas dit, on a attendu, et un an plus tard, les anciens sont venus nous dire, on vous encourage de partir dans le ministère. Et donc ils nous ont envoyés, et nous ont accompagnés, et ce n'était pas juste une décision, en fait, ils nous ont accompagnés pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, si on est là, si on est dans le ministère, si on est devant vous, c'est parce qu'il y a une équipe d'anciens qui nous ont pris d'étape en étape et qui nous ont lancés dans le ministère et encore aujourd'hui ils sont avec nous.
On voulait vous prévenir que la vocation, ce n'était pas forcément ce que vous croyez. Suivre Jésus, ce n'est pas se préoccuper des choses de ce monde, des richesses et des plaisirs de ce monde. C'est se préoccuper premièrement de son royaume. Suivre Jésus, ce n'est pas avoir plus, c'est avoir moins, mais avoir l'essentiel. Suivre Jésus, ce n'est pas gagner sa vie, mais c'est la perdre. Suivre Jésus, c'est devenir humble, serviteur, inconnu, ignoré. Suivre Jésus, ce n'est pas un chemin de gloire, c'est un chemin d'humilité. Suivre Jésus, ce n'est pas Dieu à mon service, mais moi au service de Dieu. Suivre Jésus, ce n'est pas un chemin facile, c'est une porte étroite devant un chemin difficile. Suivre Jésus, ce n'est pas faire, c'est d'abord être. Suivre Jésus, ce n'est pas faire des choses extraordinaires, c'est d'abord être extraordinaire dans les choses ordinaires. Obéir dans l'invisible, dans l'ingrat, dans le quotidien. Il y a un exemple de suivre Jésus dans l'ingrat, dans le quotidien. C'est par exemple le ministère de maman. Nous devons être exceptionnels dans des choses ordinaires, et je parle à celles qui vont devenir maman. Prendre soin des enfants, c'est une vocation. C'est un ministère. On ne gagne pas d'argent, on fait des tâches ingrates, on n'est pas libre et libéré. On a peut-être même la dernière place, on est incompris, on peut se moquer de vous. Mais en fait, on accomplit la volonté de Dieu. Vous voyez, suivre Jésus, c'est parfois faire des choses ingrates, invisibles, mais être extraordinaire avec Jésus dans ces choses ordinaires.
Quelques choses très concrètes, pour on arrive sur des choses de plus en plus concrètes. Donc si vous voulez vous attacher à Jésus et rentrer pleinement dans son service, que ce soit disciple dans le quotidien, que ce soit peut-être dans un ministère plus particulier, première chose, c'est vraiment de s'attacher à Jésus-Christ. Jésus, c'est le cep, nous sommes les sarments, nous sommes attachés à lui d'une manière existentielle. Nous l'aimons, il nous aime, on s'inspire de lui. Lisez la Bible, priez-le, vivez avec lui. Soyez ensuite actifs dans les petites choses où vous êtes. Est-ce qu'il faut aider ton moniteur du groupe de jeunes pour préparer la pâte à crêpes pour la prochaine soirée crêpe du groupe de jeunes? Tu vas y arriver. 6 œufs, 500 grammes de pâte, 500 grammes de farine, 1 litre de lait, ça va marcher. Un peu de sel, il faut oublier le sel, ça va passer. Moi, j'ai oublié le sel la dernière fois. Est-ce qu'il faut faire la cuisine dans ton centre de vacances préféré cet été? Si tu es étudiant, que tu vas au GBU ou à Agapé, c'est bien d'y aller, mais peut-être que tu peux aussi préparer le petit jus de fruits à la fin de la rencontre. Peut-être que tu peux préparer le prochain week-end. Bref, ouvre tes yeux, ou demande qu'est-ce que je peux faire. Et commencez à servir là où vous êtes, là où vous êtes. Soyez actif. Et je pense que ton moniteur de groupe de jeunes ne va pas te dire « non, il n'y a rien à faire ». À mon avis, il va te dire « il y a des choses à faire ». Ensuite, entoure-toi d'une équipe. Donc, je vous ai parlé de mon mentor qui nous a accompagnés, qui nous a envoyés. Choisis aussi de bons amis. Parmi nos amis d'Agapé, il y a des gens qui nous découragent. On les aime bien, c'est nos amis, mais ils nous découragent dans le ministère. Mais il y a des gens qui nous encouragent. Ben, entoure-toi d'amis qui t'encouragent. Partage avec un ami chrétien, partage avec des leaders de l'Église, écoute les conseils qu'on te donne. Et je vais vous donner un secret. Les bons conseils viennent d'une personne qui est compétente et qui t'aime. D'accord ? Ta mère, elle t'aime, mais elle n'est pas compétente probablement pour évaluer ton ministère. Il faut quelqu'un qui t'aime et qui est compétent. Si tu veux une question sur le groupe de jeunes, va voir ton moniteur de groupe de jeunes. C'était une question, vous comprenez ? Et écoutez les conseils qu'on vous donne. Écoutez les conseils qu'on vous donne. Franchis les obstacles, vous allez être testé. Vous allez être testé. Vous allez être testé sur votre caractère. Vous allez être testé sur votre conviction, vous allez être testé sur vos péchés. Il faut que vous fassiez, il faut faire face à vos zones d'ombre. Moi, mes zones d'ombre, c'était la colère. J'ai dû faire face à la colère. On a tous des zones d'ombre et on doit y faire face, sinon elles vont vous éliminer pour le service de Dieu. Tu as des ennemis internes avec tes peurs, avec le matérialisme, avec l'immoralité sexuelle et le porno, avec Netflix et les réseaux sociaux qui t'empêchent de réfléchir, qui anesthésient ton cerveau. Tu as des ennemis externes avec les critiques. Les églises sont des mines à critiques. Il faut savoir fermer les oreilles. Il faut être entouré, tout autant pasteur que je suis, il faut être entouré par des amis qui vous soutiennent pour ne pas vous laisser décourager. On va faire des erreurs. Je fais des erreurs chaque semaine. mais aussi de belles choses.
Il faut les peurs externes. Quand j'ai dit à mes parents que j'allais partir une année sur le bateau, ils ont tiré la gueule. Quand j'ai dit à mes parents que j'allais quitter Orange, la sécurité de Orange, Orange, vous savez, c'est quasiment fonctionnaire en France, ils ont tiré la gueule. L'appel de Dieu vous invite à un renoncement, à un lancement. Il faut dire non à des choses pour dire oui à Dieu. Vous avez des luttes. Vous avez besoin d'être entouré et de franchir les obstacles. Et finalement, lance-toi. Et peut-être tu pourrais faire un stage. Souvent dans les métiers, surtout les Français, les Suisses, je trouve que c'est un peu différent. Mais souvent les Français vous disent, tu fais d'abord des études et après tu peux peut-être commencer à bosser. Eh bien, il faut réfléchir à l'inverse. Essayez. Faites un stage. Vous aimez le ministère parmi les enfants? Eh bien, pourquoi pas? Prenez 20%, prenez du temps, passez une année dans un endroit où vous pouvez toucher les enfants. Faites un bouche-ta-ville. Je sais que dans l'Est de la France, ils ont des bouche-ta-ville. Devenez stagiaire à bouche-ta-ville. Prenez un service civique dans une association. Lancez-vous pendant une année. Et en fonction de vos dons, de vos œuvres, derrière, vous vous formez une fois que vous avez la conviction que vous avez un ministère qui vous attend. Peut-être faire un stage, etc., etc. Peut-être une année avec OM, peut-être une année à l'IBG, peut-être une année avec ton centre de camp préféré. Et ces expériences court terme vous donnent une connaissance de qui vous êtes, vous donnent un vis-à-vis, et ça va vous permettre de construire la suite dessus. Et peut-être vous retournerez comme ingénieur chez Orange derrière, j'en sais rien, mais au moins vous vous connaîtrez et vous serez au service, et vous serez convaincu. Quelques éléments justement sur la formation. Je voulais aussi vous parler des options de formation. Et il y a quelque chose qui est très cool aujourd'hui en France, c'est en Suisse, en francophonie, c'est que vous avez des tonnes d'options. Vous avez des tonnes d'options qui partent d'une durée la plus courte à des durées longues, à des choses de plus pratiques, à des choses plus académiques. Donc par exemple, vous connaissez peut-être les centres de formation biblique à Tin Ranch. Quelqu'un a déjà fait ça à Tin Ranch? Non? Centre de formation biblique, voilà. Vous avez aussi au centre des jeunes à Saint-Lunaire. Voilà, vous avez plein de trucs. Ils sont en train d'en ouvrir un dans l'Est de la France. Donc ça, c'est des choses, vous y allez une semaine, vous avez des cours de théologie le matin, l'après-midi c'est fun, vous avez du sport, etc. Ça dure une semaine, vous faites ça 2 ou 3 ans et ça vous donne un panorama de la théologie. C'est super, c'est cool, c'est fun. C'est le plus court et c'est théorique et à la fois fun. Vous avez IEM cet été, chaque été IEM vous propose 2 mois pour découvrir la mission. Pendant vos vacances, vous faites 2 semaines d'orientation missionnaire, c'est quoi la mission, c'est quoi l'interculturalité. Et après vous partez 6 semaines à l'étranger, il faut être majeur par contre, 6 semaines à l'étranger. Et vous découvrez la mission. Vous avez des choses, l'école biblique Défi à Champfleury, une année. Vous avez plein d'instituts bibliques qui proposent des choses en une année, comme l'IBG, l'Institut biblique belge. Vous avez d'ailleurs aussi l'IBN à Nogent qui propose des choses d'une année. Vous avez ensuite des choses de 3 ans en général, les cursus IBN, HET Pro, l'Institut biblique de Bruxelles, c'est 3-4 ans. L'IBG ici, c'est 4 ans. Vous avez des formations qui sont plus académiques, plus théoriques, comme l'IBN, ou des choses plus pratiques, comme ici à l'IBG. Et puis bien sûr, après, vous avez les facs de théologie. Mais par contre, ce qu'on vous recommande, c'est d'avoir une conviction avant d'y aller et d'être prêt. Et chaque chose ne correspond pas à tout le monde. D'accord ? Donc j'ai une connaissance, là, à Lyon. Il est parti, là, il vient de faire 3 ans à distance avec la fac d'Aix-en-Provence. À un moment donné, il est un peu même remué dans sa foi parce que quand vous allez dans une fac de théologie, vous voyez toutes les options, vous devenez théologien, toutes les options possibles sur un sujet, y compris les gens qui ne croient pas en Jésus, qui croient en rien et qui parlent sur la théologie. Donc c'est... Ça peut vous perdre, vous pouvez vous noyer aussi dans des études de théologie. Donc commencez dans le bon ordre. La conviction, qu'est-ce que vous voulez faire? Et après, vous prenez dans votre vie ce dont vous avez besoin pour rester fidèle à Jésus-Christ. C'est ça qui compte, ce n'est pas la belle dissertation. Donc on revient à l'enjeu fondamental. L'enjeu fondamental, c'est ton rêve. C'est ce qui te donne envie de vivre. Est-ce que c'est d'être avec Jésus-Christ, participer à sa restauration et participer à la plus grande défaite qu'on commence à goûter un peu ici, dans nos églises, etc. Mais qui aboutira dans une célébration éternelle au ciel, avec toutes les personnes de toutes les couleurs, de toutes les cultures, de toutes les ethnies qui ont entendu parler de lui.
Écoute l'immense privilège qu'est l'invitation de Jésus qui te dit « Suis-moi ». Suivre Jésus est ton appel et ta mission. Le premier appel que Dieu te lance est « Suis-moi » pour avoir une relation avec moi. Le deuxième appel que Dieu te lance est « Suis-moi avec tes dons. Tu es responsable des dons que je te donne. Tu es responsable de chaque minute de ta vie, de chaque chose que tu entreprends. Tu es responsable de rentrer dans le grand projet de Dieu de restauration du monde. » Nous avons un Dieu merveilleux, et je voulais vous dire un encouragement avant de finir. Dieu vient dépendant de Dieu, c'est-à-dire que peut-être qu'il va t'appeler à faire des pas de foi, peut-être que tu ne sauras pas comment tu vas faire pour payer ta prochaine année, des choses comme ça. Eh bien, en devenant dépendant de Dieu, tu verras Dieu agir. On ne peut pas avoir la puissance de Dieu si on n'en a pas besoin. Par exemple, nous avons, quand on a dû construire une église là, à Trévoux, on avait un budget de 270 000, alors on a commencé. Et puis, au fur et à mesure, on avait besoin de payer plus de choses, et plus de choses, et plus de choses. Et pour finir, on a eu un budget qui avait fini à 470 000. Et donc, il manquait 200 000, en fait. Si on avait réfléchi, on n'aurait peut-être pas osé. Eh bien, Dieu a pourvu au fur et à mesure qu'on avait besoin.
Au fur et à mesure que j'amenais des factures à la trésorière de plus de 10 000, ben, l'argent rentrait plus vite que ce qu'on arrivait à le dépenser. À la fin, on a fini le portail, la dernière couche de peinture, on a posé le pinceau et il restait 10 000 en banque.
Voilà, c'est ce Dieu-là qui veut vous proposer de vivre avec lui et pour lui. On peut vivre des choses merveilleuses avec Dieu, mais des choses folles en fait. Il faut juste faire des pas de foi.
Alors en l'an 2000, vous étiez pour la plupart panés, nous étions là, nous avions 15 et 16 ans et on était dans la conférence ici. Et il y a un bonhomme dans la grande tente là-bas qui a fait un appel, qui a dit ben, « Est-ce que vous voulez consacrer votre vie à la mission et à Jésus-Christ ?» Donc on ne se connaissait pas, elle était au fond de la salle, moi j'étais devant la salle, on ne se connaissait pas, et on s'est levé tous les deux, on a dit « Oui, on veut ». On a dit « Oui, on veut ». Et le Seigneur a dirigé les événements, et puis aujourd'hui on est devant vous. Et ce qu'on remarque, c'est que Dieu écoute nos cœurs, il nous garde, et si on veut vivre pour lui, lui prend soin de nous, et il nous inclut dans sa mission. Est-ce que tu veux offrir ta vie à Jésus-Christ et la consacrer à sa mission, à ce grand projet qu'il a de restauration? Est-ce que tu veux répondre oui à Jésus qui te dit « Suis-moi » Donc on va prendre 5 minutes de réflexion, vous pouvez juste réfléchir à ça, à toutes ces personnes qui doivent encore entendre parler de Jésus. Et on aura le temps de questions-réponses après.